Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, un premier roman. Écorce de Hajar Bali, édité par Belfond, est une saga familiale avec un jeune homme de 23 ans entouré de trois femmes puissantes. Trois femmes de trois générations différentes, marquées chacune d'elles par les drames et les guerres qui ont ébranlé l'histoire de l'Algérie au XXe siècle. Un roman donc sur la transmission, comment transmettre les histoires et les secrets de famille, comment transmettre aussi l'histoire d'un pays. C'est un roman aussi sur les racines, les traditions, les petites révolutions et les grandes désillusions. Et c'est aussi un beau roman sur l'amour vorace des mères. Hajar Bali est mon invité ce matin. Son roman Écorce est un coup de cœur partagé avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, également présente avec nous ce matin.
Le réveil culturel. Lundi. Livre.
Bonjour Hajar Bali.
Bonjour, tout fait Trakam.
Écorce, votre premier roman, sort simultanément en Algérie aux éditions Barzac et en France, ici, aux éditions Belfond. Alors, je disais que c'est l'histoire d'un jeune homme, mais hein, s'il est vraiment entouré de femmes, un jeune homme de 23 ans, étudiant en mathématiques, qui a pour prénom Nour, c'est-à-dire lumière en arabe, ou brillance d'ailleurs.
Oui, aussi.
C'est donc l'histoire de Nour qui vit dans un petit appartement à Bab El Oued, entouré de femmes, sa mère Mariam, sa grand-mère paternelle Fatima et son arrière-grand-mère Baya, qui a 95 ans. Elle l'aime, alors franchement, elle l'aime ce Nour, elle l'aime à la folie comme on aime un petit dieu. Et ces trois femmes ont toutes été traumatisées, je le disais en préambule, par les guerres qui ont secoué à des périodes très différentes leur pays. Et chacune d'elles, à sa manière, tente de raconter son histoire à Nour. Alors c'est une saga familiale avec tous les ingrédients inhérents au genre, mais c'est aussi peut-être pour vous une tentative d'écrire l'histoire d'un pays à travers les petites histoires de famille, c'est-à-dire par bribes, en y incluant bien sûr les non-dits qui travaillent de l'intérieur, comme vous dites.
Oui, exactement. En fait, les personnages sont traversés par tous ces événements de l'histoire, mais ils resteront toujours en marge. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de héros. C'est un peu les petites histoires des familles qui sont pris dans ce tourbillon d'événements et de...
C'est-à-dire que le roman national, il est là, mais il est en arrière-fond.
Exactement.
Hein. Voilà. Mais très présent, puisque...
Il est présent, bien sûr.
Parce que toutes ces personnes ont été marquées.
Marquées, oui, par tout ça, par tout ce qui arrive, quoi.
Et puis le fait que ce soit des jeunes, parce que je parle de trois femmes, en fait, quand il y a quatre femmes, hein, on va parler aussi de la jeune, de la petite amie de Nour. Quand on lit ce livre, on a l'impression que c'était aussi une envie pour vous d'essayer de raconter l'histoire de l'Algérie, mais à travers les yeux des jeunes d'aujourd'hui.
Ah oui, d'accord, oui.
Alors c'est quoi le point de départ?
Je sais pas, le point de départ, oui, c'est vrai qu'on commence par Nour, mais en fait on commence par les deux extrêmes. On commence par Baya qui a 94 ans ou 95 ans, je me souviens plus, et Nour. Donc c'est tous les deux qui l'un qui ouvre et l'autre qui ferme le récit. Mais effectivement, les deux traversent le roman, toutes ces générations là, il me semble pas que Nour soit particulièrement important, même si c'est vrai que son regard va apporter une réalité concrète d'aujourd'hui, quoi. Voilà.
Non, mais surtout, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de son arrière-grand-mère.
Il encaisse toutes les histoires, tous les récits. Et voilà, il en est l'héritier. Il en est l'héritier. Et il est aussi en action dans sa vie, en portant en lui, dans ses os, dans son histoire, dans ses comportements, portant tout cet héritage, quoi.
Pourquoi ce sujet? Parce que vous allez parler de l'Algérie à l'époque coloniale, dans les années 30, puis on va traverser toute l'histoire du XXe siècle en Algérie avec vos personnages à Hajar Bali. Pourquoi ce sujet?
On va dire au départ qu'il s'est un peu imposé à moi, parce que c'est un peu mon histoire, c'est un peu le désir que j'ai eu de comprendre ce qui fait que nous soyons arrivés. Bon, ça a été écrit et terminé, on va dire, dans sa grande majorité, le roman, en 2016. C'était donc avant ce qui nous arrive maintenant aujourd'hui.
C'est-à-dire ce mouvement de protestation qu'on appelle l'Irak.
Cette révolution, oui.
Ça fait un an d'ailleurs que tous les vendredis.
Absolument.
Vous-même, vous êtes très impliqué d'ailleurs dans ce mouvement à Djerbali.
Oui, j'en suis.
On y reviendra. Ouais. Et c'était une histoire de dire d'où venons-nous ? Est-ce qu'on peut raconter notre histoire ?
Et qu'est-ce qui fait que nous soyons arrivés à une espèce d'impasse ? Voilà. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que la société, en tout cas que j'observais à partir de moi-même aussi, était dans ce blocage, dans cette impossibilité de radicalisation profonde, quoi. Voilà. Mmh. C'est ce qui a fait que j'ai voulu plonger le plus en arrière possible et me remémorer tous les récits qu'on a pu me faire ou que j'ai pu vivre dans ma société. Et à partir de vraiment, comme vous l'avez dit, de petits récits, c'est-à-dire de choses qui me paraissent plus, qui sont plus indicatrices de réalité qu'une saga avec héros et fanfares, etc. C'est-à-dire, je voulais vraiment qu'on reste dans une espèce d'intimité des choses et des gens tels que je les vois et tels que, il me semble, ils rendent compte de la situation dans laquelle on se trouvait, on s'en trouve peut-être encore aujourd'hui.
Et pour le style que vous avez utilisé, parce que c'est un style qui mélange des monologues intérieurs, des petits textes, des choses vues, de la poésie, qui passe d'une époque à l'autre, et qui reste quand même, puisqu'il y a des dialogues, parce que c'est incarné par des personnages, ça reste vraiment une saga familiale, dans le sens populaire et noble du terme. Mm-hmm.
C'est dû à, enfin, c'est un peu la recherche que j'essaye de faire d'un langage, d'un langage d'un, ça relève d'un désir que j'ai de, on va dire, de désaxiomatiser.
Oui. Donc c'est la mathématicienne qui parle.
C'est-à-dire de sortir de ces lois ou de cette rigidité du langage et de la parole. Imposé, peut-être imposé par une dictature, peut-être imposé par la société, par la famille, et qui fait que...
Et en ce qui vous concerne, pardon, à dire Bali, par la langue, et donc par l'histoire, parce que vous passez par la langue française pour essayer de faire vivre des personnages hauts en couleur, mais qui, on l'imagine, s'expriment plutôt en arabe.
Oui, mais c'est vrai que j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu le souci de ça, parce que je me suis demandé si j'allais pas, par exemple, utiliser... par moment dans les dialogues l'arabe d'Erja ou
l'arabe parlé
populaire mais après ça n'était plus un problème pour moi parce qu'il me semble que ce n'est pas une question de quel est l'outil enfin quel est le par quel biais on peut faire parler mais plutôt c'est la parole c'est la on va dire comment on peut puiser dans quelque chose d'authentique et même d'ancien d'ancré dans nos os dans n'importe quelle langue. Et ça, c'est tout à fait possible, il me semble. Ce n'est pas l'idiome qui est important, mais plus la façon dont on apporte dont on transmet cette langue.
Parlons des personnages féminins de votre roman à Djerbali et Corse, et commençons par Baya, qui est vraiment impériale. C'est la, qui a 95 ans.
C'est la reine.
C'est la reine, oui. C'est la reine qui a réussi sa révolution.
Qui a réussi, oui, en partie. En tout cas, elle s'est battue. Elle a été mariée très jeune, à 14 ans. Donc,
seconde épouse.
Oui, voilà. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'était quand même une enfant. Mais elle a eu à faire des choses, des choix et à mener une révolution, comme vous avez dit, un peu trop jeune, un peu trop tôt.
Va récupérer son enfant, gagner son indépendance. Elle sera tout à la fois une femme répudiée, une femme libérée.
Exactement, qui se libère, oui. Et elle va aller jusqu'à construire, jusqu'à mener sa petite famille, c'est-à-dire elle va fonder un foyer, enfin, elle va adopter une jeune femme qu'elle va prendre, qu'elle va faire épouser à son fils, et construire comme ça son petit monde auquel elle va être tellement accrochée, parce que pour elle, c'est sa réalité, c'est ses valeurs à elle qu'elle s'est construite au fur et à mesure, parce qu'elle était
enfant. Et tout ça pendant que la guerre fait rage, parce qu'elle va traverser aussi bien les événements de Sétif que la guerre de libération de l'Algérie.
Oui.
Bizarrement, les femmes des autres générations, elles vont être plutôt pas soumises, mais elles vont accepter le renoncement au nom du patriarcat, au nom d'une d'une culture.
Baïa, quelque part aussi, y participe. Elle les pousse aussi à ces acceptations, ces renoncements.
C'est tout le paradoxe.
Et c'est ça tout le paradoxe, oui. Les deux autres personnes, enfin, je pense à Mariam qui a fait une partie de, qui a fait des études, qui, elle, a vécu la période socialiste où on,
le socialisme
à être...
spécifique algérien, mais voilà. Aussi les années 60 qui, dans le monde, ramenaient le féminisme, la libération des corps et tout ça. Elle était.
Et donc elle a pris conscience à un moment donné de sa vie qu'elle avait la possibilité d'aller vers cette, de prendre cette voie de libération et de radicalisation. Mais elle savait que ça allait être au prix de rupture dans sa famille.
Et donc elle refuse ces ruptures.
Et c'est elle-même qui finalement se remet dans le. Dans la conformité, quoi, qui accepte le mariage et qui renonce à ses études. C'est elle qui le fait.
On n'arrête pas de parler de femmes parce que les hommes, ils sont très soumis, très absents. Eux-mêmes ne choisissent pas leur destin. Eux-mêmes sont obligés de se conformer à un ordre établi.
Tout le monde, en fait. Toute la société, en réalité. Dans ce roman, en tout cas, ils sont tous dans l'acceptation de ce qu'ils vivent, même si les femmes ont un discours, ont une parole, parce qu'elles sont à l'intérieur dans l'enfermement dans lequel elles sont, dans leur maison, dans leur habitat, elles sont quand même, elles se permettent, on va dire, une parole parfois assez violente, assez radicale. Alors que les hommes, eux aussi, étant subissant l'autoritarisme d'un pouvoir ou d'une autorité au-dessus d'eux ou même
de la société,
des femmes aussi, ouais. Du foyer, ils sont complètement en marge et ils sont en même temps eux aussi dans la recherche de leur langage, d'un langage. Je pense par exemple à Haroun avec sa poésie.
Voilà. Ça peut passer aussi par la musique.
Par la musique.
J'aime beaucoup une scène dans votre roman Radio Bali, Écorce. Je crois que c'est Kamel, le menuisier, avec sa femme Mariam. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se parler des sentiments. Ils vont profiter d'un soap qui passe à la télévision pour faire référence à ce qui se dit et de revenir à une manière aussi pour vous d'assumer le côté populaire de votre écriture.
Ah oui, complètement. Oui, j'espère bien. Enfin, je... Oui, mais totalement.
مالي مالي ومالي الشمعة ما ضوتني في ظلام مالي مالي ومالي الصاد ما سقم لي ليام مالي مالي ومالي الشمعة ما ضوتني في ظلام مالي مالي ومالي الصاد ما سقم لي ليام نصيب ما فرحني نساني في الايام واللي مضاوع عني معاك خبلني تخمام حتى نصيب ما فرحني نساني في الايام واللي مضاوع عني معاك خبلني مقام بدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب عالج ليا الاسقام لو مهاني اللي وانا عليك عساس لي مبني على خداع حرمولي نعاس ما تمنى وصار طعمه وانا عليك عنعاس من يدهم شربت المرار كاسي تبعكاس.
Lorsqu'elle quitte la maison de Nour, Mouna décide de marcher le long du boulevard de Front de Mer. Les lampadaires commencent à s'allumer, il fait encore jour pourtant. Il est déçu que je sois parti si vite, j'ai lu dans ses yeux. Elle a une boule au ventre, elles ont l'air tellement méchantes. Ne même pas m'inviter à s'asseoir. Elle pénètre maintenant au cœur de la ville, remonte lentement l'avenue d'Idouche Mourad quasi déserte. Seuls quelques groupes de jeunes hommes discutent en fumant au pied de leurs immeubles. Il s'arrête de parler pour la regarder passer et lance quelques compliments. « Vous êtes charmante, mademoiselle. » « Aïe, je suis amoureux !» et autres maladresses qui, parfois, la font sourire malgré elle, car évidemment, les déclarations d'amour gratuites sont finalement les blagues préférées de ses concitoyens, qu'il faut savoir accueillir parfois comme un rayon de soleil qui se serait oublié dans la nuit. Elle ne se sent pas en danger. Elle ne s'est jamais sentie en danger dans sa ville. C'est sa force. C'est extrait bien sûr d'Écorce, le premier roman de Hadjar Balich, édité chez Belfond en France. Et là, c'est l'autre femme, c'est la quatrième génération. On a parlé bien sûr de Baya, la patriarche, celle qui a 95 ans. On a parlé de Mériam, de Fatima. Mouna, elle n'est pas bien accueillie hein, par la famille de Noura.
Mais non, c'est toujours la même attitude défensive de ces femmes qui veulent encore continuer, qui se sentent en danger parce que c'est une femme, comme elles disent, sophistiquée, quoi, moderne, et ça leur fait peur.
Comme elles disent, elle et vous, comment définir Mouna Hajjalbali? Direz-vous que c'est une fille de la mondialisation, que c'est une fille qui assume ses ruptures?
Elle-même, sa mère déjà était assez libérée, on va dire entre guillemets. C'était une musicienne, ce qui est assez rare quand même, qui s'est abîmée dans un amour incroyable pour un homme qu'elle venait de quitter. Et donc, on pourrait dire que Mouna s'est un peu faite toute seule, mais elle vit seule. Hein, c'est-à-dire, c'est une femme qui a toujours été. On ne peut pas dire qu'elle assume une liberté puisqu'elle l'a toujours eue, quoi. Elle a toujours.
Mais est-ce qu'elle incarne pour vous la nouvelle génération de femmes algériennes, Hadjar Balich?
Je ne pense pas. Pour moi, elle est quand même assez exceptionnelle, je veux dire.
Parce que dans ce passage-là que je viens de lire, on la voit bien.
Ah oui, dans ce passage, mais je veux dire
globalement. Elle est dans son élément et en même temps.
Elle est à l'aise. Ouais. Elle est à l'aise dans sa société, dans sa rupture. Ouais. Mais elle est un peu en marge quand même de cette. Mais voilà, ça ne l'empêche pas de vivre normalement dans cette ville, tout en étant assez solitaire. C'est peut-être le prix que paye cette génération de femmes, on va dire un peu sorties du giron familial, quoi.
Hadjar Balich, avant de vous mettre à écrire, vous avez été longtemps professeur de mathématiques à l'université de Babzouar à Alger.
Ouais.
Puis ensuite, vous avez décidé, mais alors tardivement, de passer à l'écriture, d'abord pour écrire des pièces, ensuite des nouvelles. Écorce est votre premier roman. Oui. Par ailleurs, vous êtes assez impliqué dans la vie culturelle et même politique de l'Algérie. Vous avez été longtemps la principale animatrice d'un ciné-club ou d'une association plutôt, Chrysalide, qu'on connaît ici en France parce que ça a permis à des réalisateurs de renouveler le cinéma algérien. Je pense notamment à Karim Moussaoui et à Hassan Farhani, qui étaient justement dans cette association avec vous. Depuis le 22 février, vous prenez la parole, vous êtes très impliqué contre la répression pour la défense des détenus d'opinion. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Comment aujourd'hui vous voyez ce qui se passe en Algérie un an après le Irak? C'est-à-dire, ça fait un an que les Algériens sortent tous les vendredis, les étudiants tous les mardis. Qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que ça va où, ce mouvement?
C'est très joli ce que vous avez dit, cette question de prise de parole. Alors en fait, c'est exactement ça que je vois. Peut-être quelque part que le roman l'annonce un peu, puisque il y a chez les jeunes, chez le groupe de jeunes qu'on rencontre, un désir de
parler,
de faire une revue et
de s'exprimer
et de proposer autre chose, c'est-à-dire de sortir de l'axiomatique. Et c'est un peu ça que je constate aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a non seulement une prise de parole, mais comme une envie de rêver de tout, c'est-à-dire de se permettre tous les rêves possibles. Et voilà, c'est ça que je trouve très beau et qui est en train de nous arriver depuis une année. Ça prendra du temps, je pense, mais on est quelque part engagé dans une voie définitive vers l'éclatement de tout ce qui nous enfermait, des écorces dans lesquelles on voulait nous.
D'ailleurs, d'où le titre de votre roman, c'est bien de rappeler à Hadjar Balich. Mais par exemple, l'écrivain Kamal Daoud a jeté un pavé dans la mare, encore une fois, en disant que ce mouvement populaire n'a pas pu se transformer en proposition politique. Sa critique, elle s'entend, mais qu'est-ce que vous en pensez, Hadjar Balich?
Je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. Voilà ce que je voudrais dire, en fait. C'est vrai que ça ne s'est pas transformé en discours...
structuré, en structure, politique, pour un...
Mais pourquoi pas, je veux dire, peut-être qu'il y a autre chose. C'est pour ça que je dis, il y a autre chose à inventer, probablement.
Écorce de Hadjer Baldi est un des coups de cœur partagés avec le magazine Transfuge. Bonjour Auriane Jeancourt.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors oui, en effet, c'est un coup de cœur partagé. J'ai été très impressionnée par votre roman, Hadjer Baldi. D'abord par ce souffle, hein, parce qu'on est sur plus de 300 pages emportées dans l'histoire de ces familles, par ces différentes femmes. Je vous le disais quand nous nous sommes rencontrés par cette virtuosité de la construction. Toufik en a un peu parlé, mais c'est vrai que vous jouez sur les époques, sur les voix, sur les registres, sur les voix intérieures. C'est ce qui permet d'ailleurs de sauver, si c'était à sauver, mais ce roman du classicisme, quoi. Vous faites quelque chose de très, très moderne. Et en effet, comme vous venez du théâtre, ça se voit de très vivant. Et puis, je vous écoutais parler de l'état de l'Algérie. Et évidemment, on y pense beaucoup quand on voit Nour, qui comme ça recueille ses paroles, ses témoignages de femmes, qui recueille ses destins historiques. Et en même temps, Nour qui traverse tout le livre, puisqu'on le voit enfant, avec sa mère, sa grand-mère, comme ça. On se demande même à un moment s'il n'est pas un peu différent comme enfant. Et non, il est simplement sensible. On se dit, voilà, qu'est-ce que c'est que d'hériter d'un tel héritage historique? Qu'est-ce que c'est que d'hériter d'une histoire aussi tourmentée? Et qu'est-ce que c'est que d'hériter de ces paroles de femmes retenues et secrètes? Et peut-être que les jeunes hommes qu'on voit en effet défiler sont des nours en puissance. Enfin, c'est, voilà, c'est vraiment un livre assez poignant à lire aujourd'hui.
D'autres coups de cœur à partager, Auriane Jeancourt?
Oui, absolument. Alors,
on reste dans le domaine littéraire, comme tous les lundis, dans le réveil culturel.
Avec un roman d'un Nigérian que j'aime beaucoup qui s'appelle Chikodie Obioma. Et alors là, on est dans toute autre chose. Chikodie Obioma, il a déjà publié un livre qui parlait des pêcheurs au Nigérian. Et là, il nous parle d'oiseaux. Il nous parle d'oiseaux et il nous parle d'un jeune éleveur d'oiseaux qui est passionné par ses oiseaux, est passionné par les oiseaux. C'est aussi un enfant un peu différent. Il a quelque chose de nour enfant, se demande s'il n'est pas un peu fou. Mais il parle aux oiseaux, il a perdu sa mère très tôt et puis il est dans l'Afrique d'aujourd'hui, dans le Nigeria d'aujourd'hui, enfin de ces 30 dernières années où on parle beaucoup de politique, où la violence citadine est très présente, et lui il ne parle qu'aux oiseaux. Et puis un jour il va rencontrer une femme, et cette femme elle va lui permettre de sortir de ce monologue avec la nature et avec les animaux, mais elle va le pousser à se dépasser, et donc il va décider de partir en Europe. Et là on va aller dans la grande épopée des migrants d'aujourd'hui.
Et du Nigeria, on passe à la Pologne.
Oui, et alors là, et on passe aussi à une autre génération, puisque c'est une grande dame des lettres polonaises, Anna Kral, qui publie Les Vies de Maria aux éditions Noir sur Blanc. Alors, vous savez, Anna Kral, c'est une figure en Pologne. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé d'elle au moment du prix Nobel. Elle a beaucoup compté, c'est une journaliste, écrivain, qui a réinventé le reportage littéraire avec Richard Kapuscinski, qui a fait un livre avec Marek Edelman, le héros du ghetto de Varsovie, et qui dans Les Vies de Maria, revient sur une histoire assez particulière qui faisait l'objet. Elle a beaucoup travaillé avec Kieslowski et elle était sa scénariste. Et dans un des décalogues, des fameux décalogues de Kieslowski, elle raconte une histoire. C'est l'histoire de deux Polonais qui ont recueilli une petite fille pendant la guerre en 1942, une petite fille juive, et qui devaient lui offrir le baptême pour la protéger. Et donc, au moment où ils sont arrivés à l'église, ils étaient tellement croyants qu'ils n'ont pas pu mentir et qu'ils ont abandonné la petite fille.
Les Vies de Maria d'Anna Kral, c'est chez Noir et Blanc, et puis La prière des oiseaux du Nigérian Chigozie Obioma, c'est chez Bûcher Chastel. Hadjer Baldi, puisque c'est votre premier passage à France Culture, pour mieux vous connaître, quels sont pour vous les trois romans fondateurs de la littérature algérienne? À un certain moment, on voit une de vos femmes lire un roman d'Assia Djebbar.
Ouais. Ah oui,
Les Alouettes Naïves.
Pour moi, oui.
Par ailleurs, ça s'ouvre avec une citation de Jean Brouche, chant berbère de Kabylie. La voix d'un peuple d'ombre et de vivant, la voix d'une terre et d'un ciel. Pour vous, alors, les trois...
Eh bien oui, en plus de Assia Djebbar, je dirais Kateb Yassine, moins connue, plus jeune, El Mahdi Achachour.
qu'on connaît
pas. Vous connaissez
pas. Eh ben, là, très bien, on va retenir.
Oui, il y a notamment un roman Pays de...
En arabe ou en français, d'ailleurs?
En français, ouais. En français, oui.
Et s'il fallait parler un peu de votre bibliothèque idéale dans la littérature mondiale, qu'est-ce que vous appréciez à Djerbali?
J'aime beaucoup Guimarães Rosa. Diadorim, c'est un roman qui m'a franchement fasciné. Kafka, on peut dire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre.
Avec, me disait Auriane Jeancourt, une nouvelle édition du journal.
Avec des passages inédits, notamment sur l'amitié Max Brod, Franz Kafka.
Aux éditions Nous.
Et j'ai découvert aussi un roman récemment qui est quand même vieux, de Sapienza, je crois qu'elle s'appelle, l'auteure italienne.
Goldena Sapienza.
Voilà. Oui. La joie.
L'art de la joie.
L'art de la joie, oui. Fantastique aussi, un roman qui m'a passionné.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
À la coordination, Corinne Amar. À la réalisation, Vincent Abouchard. Ce matin, à la prise de son, Alain Joubert. Je rappelle qu'Écorce de Djerbali est édité en France chez Belfond. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et merci à Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. On se retrouve très bientôt sur les ondes de France Culture. À venir, les informations, le journal des idées et les enjeux internationaux. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. À demain.